interrompu.
Ah ah ah, laissez-moi rire.
Radio Campus.
Oh, bien.
Vous savez que...
Radio Campus. 88.3 FM. C'est bientôt l'apéro duo.
Je sais pas qu'est-ce qu'on se raconte.
Je voudrais mettre le doigt sur un truc énorme. Le clitoris.
Il y a un personnage d'Astérix qui s'appelle Clitorix ou pas?
Ok.
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 Ben, les femmes, c'est justement, on n'en parle pas assez. On dit que c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Les femmes font un très gros travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des femmes donc elles participent, et non pas en obéissant en tant mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire.
Tu l'as manqué pendant des mois.
Les clitorisiennes.
Les clitorisiennes. Ici les clitorisiennes.
Ouais, les clitorisiennes.
Radio Campus 88.3.
Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission en direct du 108. Les clitorisiennes, émission féministe de Radio Campus Orléans, sont partie prenante de ce quatrième événement de Girls in the Garage et de cette soirée radiophonique autour de la lutte contre les violences de genre. Pour rappel à tout le monde, le 25 novembre dernier, c'était la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et hélas, ce n'est pas le premier édito des clitorisiennes sur le sujet, loin s'en faut. Mais il est évidemment difficile d'aborder le sujet avec la légèreté qui serait nécessaire à cette soirée festive. Parce que les chiffres terribles qui sont énumérés chaque année comme des marronniers dans les différents médias dessinent tous le même constat accablant de l'ampleur de ces violences systémiques. Et pour faire dans le local, rappelons que dans le Loiret, en 2024, les autorités ont dénombré 3956 victimes de violences intrafamiliales, dont 2600 étaient des violences conjugales. Ce sont des chiffres en hausse. Contrairement, rappelons-le, martelons-le, aux subventions accordées aux associations féministes qui travaillent au quotidien à la prévention, au repérage de ces violences, ainsi qu'à l'accompagnement des victimes et même des auteurs. Il est important de rappeler que ces violences ont pour auteur une écrasante majorité d'hommes. Ces violences touchent tous les territoires, tous les milieux, toutes les classes sociales, tous les âges. Elles prennent des formes variées, violences conjugales, agressions sexistes, sexuelles, harcèlement et aussi les mutilations génitales, comme nous allons le voir dans notre première partie avec notre première invitée du collectif Hibiscus d'ici, d'Afrique et ailleurs. Et donc, nous avons la joie de recevoir Mariama Barry. Bonjour, Mariama.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je voudrais, pour continuer cet édito, rappeler qu'une victime sur six seulement porte plainte dans ces situations de violence. Ce silence, cette silenciation peut-être, des victimes, vient interroger l'état de nos institutions judiciaires, la réalité et l'efficience de nos lois. Et c'est ce questionnement peut-être qui est au cœur d'Affaires familiales d'Émilie Rousset. Émilie œuvre au sein de la compagnie John Corporation et dirige depuis juillet 2024 le Centre National Dramatique d'Orléans. Avec Affaires familiales, sa dernière création, elle retrace des récits intimes de personnes confrontées au droit, vient questionner la justice comme espace de transformation de la parole. Et justement, à propos de parole, nous allons parler de cette dernière création, entre autres, avec Émilie Rousset, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour. Avant de démarrer nos échanges, et je m'adresse à nos deux invités, je voulais savoir si vous connaissiez l'origine de cette date du 25 novembre. Est-ce que vous avez l'idée pourquoi le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes? C'est pas du tout pour vous mettre en difficulté.
Non, mais moi, je sais pas. Donc, je suis impatiente d'apprendre.
Ah, vous savez pas. Est-ce que les autres, vous voulez répondre, les clitoriciennes? Parce qu'aujourd'hui, je suis avec... donc là, vous allez entendre Clémentine, vous allez entendre Émilie et vous allez entendre ensuite Glitch. Est-ce que parmi les clitoriciennes autour de la table, il y a des gens qui sauraient l'origine ou pas? Ou je vous fais un petit point culture?
Tu peux nous faire un petit point culture, mais il me semble que c'est quand même lié à l'assassinat de trois sœurs dans un pays d'Amérique latine, mais je n'ai pas les détails de l'histoire.
Tout à fait. Donc l'origine de cette journée se trouve dans les Caraïbes, effectivement. Alors pour être plus précise, en 1960, en République dominicaine, il y a trois sœurs engagées qui s'appellent Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, les trois sœurs, Mirabal, qui sont assassinées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont refusé les avances et les violences du dictateur Rafael Trujillo, qui est connu pour sa brutalité politique et sexuelle. Leur assassinat a bouleversé la région et en 1999, l'ONU a fait du 25 novembre une date mondiale en hommage direct à leur résistance. Voilà, c'était le petit point culture pour démarrer. Et puis, on va commencer dans un premier temps donc, par discuter un petit peu, par échanger avec toi, Mariama. Est-ce que tu peux nous présenter ton association ?
Oui, alors... Bon, je me présente un peu.
Mais bien sûr,
voilà. Te présenter toi, voilà. Peut-être déjà.
Ouais.
Qui es-tu, Mariama ?
Je m'appelle Mariama Barry, donc voilà, je travaille dans le domaine social. Je suis engagée dans la prévention des violences faites aux femmes et surtout des violences de l'excision. Hein, ce qui fait que, voilà, on a essayé de créer l'association des Hibiscus. Parce que c'était un besoin immédiat. Il y avait plusieurs femmes qui sont victimes de l'excision sur Orléans et on ne savait pas vers qui se tourner. Donc, d'où l'origine de la création de l'association des Hibiscus. Donc, voilà.
Cette association existe depuis combien de temps sur Orléans ?
Depuis un an. C'est tout récent.
D'accord. C'était un collectif auparavant ?
Oui, c'était un collectif qui s'est créé au planning familial du coup. Et après, il y avait beaucoup de demandes et plusieurs femmes qui venaient témoigner. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer cette association pour mieux sensibiliser et surtout briser le tabou sur l'excision, justement.
Et si je puis me permettre, parce que Mariama, je te connais un petit peu, moi c'est Clémentine, coucou. Je me souviens d'une fois où tu as pris la parole sur une table ronde... autour de plein de médecins qui étaient présents, présentes, avec beaucoup de curiosité, de naïveté quant à la question des mutilations génitales féminines. Et cette genèse, finalement, de ce groupe de parole qu'il y a eu, c'est toi qui pousses la porte du planning familial 45 et qui dit comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Moi, je souffre de ça. Ouais. En tout cas, il y a un problème avec ça. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut en faire collectivement ? Et du coup, partant de ce postulat-là, qu'est-ce que toi, tu as pu faire, vraiment ?
Déjà, le planning m'a accepté parce qu'il n'y avait pas un espace où je pouvais parler librement, sans tabou. Même entre nous, victimes de l'excision, hein, on n'en parle pas du tout. Et arrivé au planning, du coup, je me suis sentie léger que je pouvais aborder l'anatomie de mon corps, mes envies, mes plaisirs... sans un souci, parce que du coup, l'excision est pratiquée chez nous tout simplement pour contrôler du coup, la corps de la femme, sa liberté. Et même si c'est fait par des femmes, mais derrière tout ça, il y a des hommes qui dirigent. Donc, arriver au planning et voir d'autres femmes de pays différents et d'histoires et de parcours divers, ça m'a apporté la confiance déjà de parler de ça aujourd'hui ici avec vous. C'est pas facile, mais bon, voilà. Donc,
ouais, j'imagine que c'est vraiment, c'est énorme le cadeau que tu fais d'une certaine façon, en tout cas cette présence que tu as et cette capacité que tu as à pouvoir en parler pour sensibiliser les personnes et pour agir aussi. Mmh. Et le cadeau que tu as fait finalement à une association de droit universel pour agir sur ce droit spécifique. Merci et bravo.
Et justement, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents types, peut-être, de mutilations génitales féminines ?
Oui, il existe plusieurs types, mais moi, je vais vous parler de quatre. Le type 1 consiste à lever juste la petite peau sur le clitoris. Et le type 2 consiste à couper le clitoris et les petites lèvres. Le type 3, dont moi, je suis concernée, consiste à couper le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. Du coup, l'infibulation totale. Et le type 4, on enlève tout et en même temps, on recousit la partie génitale pour laisser juste une petite trou pour faire pipi et les règles. Donc,
c'est des violences, des mutilations qui ont lieu très jeunes sur le corps des femmes ?
Ça dépend des familles, ça dépend des cultures aussi dans les pays, parce qu'il y a des pays où on fait, par exemple chez moi, c'est de 4 ans jusqu'à 15 ans. Et il y a des endroits où, même quand tu es majeur, tu peux passer dans la passerelle, quoi. Tu peux passer Tu peux avoir 30 ans et si tu n'es pas excisé, bah, du coup, tu seras excisé quand même.
Et malgré le tabou qui pèse, hein, et tu l'as dit, la difficulté de la rencontre et de la parole, est-ce qu'on sait un petit peu les réalités chiffrées de ces mutilations aujourd'hui parmi les femmes en France, qui vivent en France par exemple?
Selon les dernières nouvelles, il y a quand même 60 000 femmes qui ont subi les mutilations génitales féminines qui vivent en France, parce que bah, la France est un pays européen qui est plus concerné. Parce que voilà, il y a plus de migrantes et surtout migrantes de la Guinée, parce que la Guinée, c'est 98% de l'excision. C'est au fait, c'est une femme sur trois ou deux, quoi. Tout le monde est excisé. Donc là, oui, il y a beaucoup de femmes qui vivent ici avec ces fardeaux, si je peux dire comme ça, et ces traumas.
J'ai même entendu des décisions de justice où ça se faisait sur le territoire français. Il y a des personnes qui étaient condamnées pour ça.
Oui. La loi française est très stricte là-dessus. Bah, c'est condamné, c'est puni. Mais même si ce n'est pas fait en France et que voilà, pendant les vacances, quand les petites filles partent dans les pays d'origine de leur famille, bah, parfois il y a des tantes, parce que ce n'est pas forcément les mamans qui le pratiquent sur les petites filles. Parfois il y a des tantes, des grand-mères et tout. Donc du coup, même si ce n'est pas fait en France, bah, au retour, ça serait quand même puni par la loi. Donc sur ça, oui, les petites filles sont protégées là-dessus.
Et dans les différents pays, est-ce qu'il y a des avancées quand même, où les mutilations se pratiquent toujours autant?
Malheureusement, il n'y a pas des avancées, parce qu'il y a la médicalisation de l'excision qui est dommage et triste. Je sens que c'est des infirmières, des sages-femmes qui savent très bien quelles sont les conséquences dues à l'excision, des infections, des hémorragies et surtout le trauma qui est derrière ça, parce qu'il faut vivre avec ça. C'est ton corps, c'est quelque chose qui t'appartient, qu'on enlève, et ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec du médical, rien du tout. Mais ça continue, je vous dis, aujourd'hui on est en 2025, mais il y a 98%, quoi. Ça continue dans les pays voisins, que ce soit Mali, Côte d'Ivoire, ça continue. Malheureusement, ça n'avance pas. Et dernièrement, au planning familial, il y avait une femme qui venait de Tchad aussi. Et c'était une autre façon de mutiler les femmes. Donc, des marques sur le visage. C'est une pratique criminelle qui, malheureusement, qui consiste à contrôler, encore une fois, la femme, hein, sa liberté et son plaisir.
Oui, les mutilations, de manière générale, il en existe des milliers de formes pour asservir les êtres humains vis-à-vis d'une autre partie. Et dans les mutilations génitales, il existe une forme que moi je connaissais peu et que j'ai découvert assez récemment, qui est le fait d'agrandir les lèvres en attachant des poids aux lèvres internes qui font qu'elles s'agrandissent de plus en plus pour former une excroissance. Et du coup, c'est une forme de mutilation aussi dont on parle très très peu, mais qui existe également, quoi.
Oui, il y a beaucoup de violence derrière ces mutilations, hein. Il y a des mutilations qui ne sont pas connues, malheureusement, et qui existent et c'est très triste.
Oui, parce que sur la question du droit d'asile aussi, c'est quelque chose qui peut être mis en avant quand des femmes viennent en demande d'asile sur le territoire français et qu'elles ont des enfants de genre féminin. Si elles-mêmes ont été victimes de mutilations sur leur territoire d'origine, elles peuvent faire valoir cette demande d'asile plus fort pour pouvoir protéger leurs enfants et ainsi favoriser le regroupement familial. Toutefois, je ne sais pas, peut-être que tu connais ça davantage. Est-ce que toutes les formes de mutilation génitale sont prises en compte, et toutes les formes de mutilation plus généralement sont prises en compte pour ça?
Non, pas du tout. Il y en a qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, le type 1, parfois, ils se disent que non, c'est moins grave. Et pourtant, non, il n'y a pas une mutilation qui est moins grave que l'autre. Mais bon, voilà, non. Et surtout, parfois, quand tu es victime de l'excision et que tu arrives, tu essaies de dire oui, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'écoute. Et surtout d'être accompagné par des psychologues ou des personnes qui sont spécialisées dedans. Mais il n'y a pas cet accompagnement-là. Il n'existe pas. Vraiment. C'est pourquoi je suis venue d'ailleurs vers le planning. Parce que je ne l'ai pas trouvé.
Et du coup, pour en revenir à l'association que vous avez créée, quels sont les objectifs de cette association? Donc, tu disais quand même faire de la prévention, mais ça passe par quoi? Intervenir en milieu scolaire? Ça passe par venir ce soir avec nous, par exemple, pour parler de l'association et des mutilations?
Pour l'instant, on n'est pas encore sur le terrain. On mène pas beaucoup d'actions parce que voilà, on prend du temps pour trouver des marques et pouvoir évoluer un peu petit à petit. Mais en tout cas, par le biais du planning, on essaie toujours de tenir ces temps de parole, justement pour déjà se libérer, parce que ne reste que de venir en parler de ce qu'on a traversé et tout. Donc, c'est déjà beaucoup pour nous.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc, on essaye nous-mêmes déjà de...
Déjà prendre de la force entre vous.
Voilà. Donc, et après, par la suite, pourquoi pas partir vers les autres et sensibiliser. Donc là, on essaie vraiment de retrouver pas mal de femmes victimes de l'excision, de venir vers nous et... Comme ça, il y a une écoute partagée. Quoi.
Et moi, je me pose la question de comment agir en tant qu'alliée. Parce que du coup, à titre personnel, je ne suis pas concernée, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vous aider voilà, sans faire à votre place, évidemment. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut être alliée?
Déjà, adhérer à l'association, c'est une bonne chose.
Oui, carrément.
Voilà, et aussi quand il y a des événements, nous inviter, parce que nous, on ne sait pas tout ce qui se passe à Orléans. On n'est pas invité parce qu'on n'est pas assez connu. Ça commence à prendre la forme et tout. Donc, si vous voulez être allié, c'est déjà nous inviter ou nous prévenir, peut-être, ou même sensibiliser avec nous et parler du coup justement de l'excision à des professionnels de PMI, même s'ils sont au courant. Mais je pense que la prévention, elle n'est pas assez là, en tout cas, selon moi. J'ai l'impression que l'excision n'est pas connue par tous.
Ouais, tu parles des services de PMI, la protection maternelle infantile. Oui. C'est une porte d'entrée vachement intéressante, en fait.
Oui, oui.
Sur l'animation de salle d'attente, je pensais.
Sur l'animation de salle d'attente.
Oui, la salle d'attente de PMI.
Mais oui,
on l'a déjà fait. Hein,
mais oui, je sais. Oui.
Et du coup, je me posais la question aussi de la prise en charge médicale en France qui peut exister, parce que, comme tu le disais, il y a des conséquences à long terme sur le corps. Est-ce que on peut être correctement suivi en France? On sait les difficultés actuelles, hein, le désert médical et voilà. Est-ce qu'il y a une attention particulière? Est-ce que vos besoins, vos demandes sont prises en compte? J'ai peur de la réponse.
Non, il faut pas avoir peur.
Non mais c'est bon.
Non mais sur ces points-là, oui, carrément oui. On est quand même bien accompagné sur ces points-là, surtout. Il y a la maison des femmes de Saint-Denis, où moi j'avais fait du coup mon parcours de reconstruction clitoridienne et tout. J'ai été bien accompagnée. Il y a des animations, il y a des psychologues et tout. Et aussi aujourd'hui, il y a le planning, hein, le groupe de parole du planning. C'est un succès. Nous, le planning, c'est devenu chez nous. Donc on vient, on se libre. Voilà, c'est la liberté d'expression un peu, où on ne nous juge pas. Et il y a la maison des femmes aussi, de la source aujourd'hui où on peut venir parler. Oui, on est correctement accompagné. Et surtout la réparation du coup clitoridienne quand tu es victime de l'excision et les prises en charge. Et même si tu n'as pas les documents. Genre, par exemple, moi j'ai fait ma réparation, je n'avais pas encore les papiers. Mais ça a été 100% pris en charge par du coup la sécurité sociale.
Eh ben, ça, donc c'est une bonne nouvelle. Ça.
Oui, ça c'est très bien. Oui, tout à fait.
En tout cas, c'est une chance sur le territoire français et ça gagnerait à s'ouvrir sur tous les territoires du monde. Est-ce que, Mariama, il y a quelque chose d'hyper important où tu te dis « il faut que je dise ça absolument » avant qu'on passe le morceau qu'on a choisi?
Moi, je vous dis déjà merci de m'avoir invité, hein, de parler de ce sujet pour moi qui est assez tabou. Je vais le dire comme ça parce que je n'entends pas beaucoup parler, que ce soit dans les médias ou voilà. Et pourtant, il faut sensibiliser parce que parfois, même dans les écoles, il y a des enfants qui ont été victimes de l'excision mais ne savent pas comment en parler et tout. Donc merci pour cette invitation et j'espère qu'il y aura des émissions qui vont parler plus de ça.
Ouais, du coup, ce serait quoi en fait pour toi la première chose à faire pour pouvoir transformer le monde et agir concrètement?
Ah waouh, elle veut transformer le monde en direct. On est chaud.
Oui. Moi, je rêve grand.
Ah bah oui, non mais t'as le droit.
Oui. Comment on fait déjà pour agir sur ce sujet-là, selon toi? C'est quoi la première action à mener?
Sensibiliser, parler de ça. Tu as parlé de ça.
Détruire le tabou, quoi.
Voilà, c'est ça. Briser ce tabou qui est là, parler de ça et dire que oui, il y a des femmes, en fait. Il y a beaucoup de femmes en France, quand même, qui sont ici de l'immigration, qui vivent ça. Et après, je sais, hein, ce ne serait pas ça le point fort de. Tu vois.
Mais. Tu peux le dire dans le micro, c'est les politiques, le problème.
Mais oui, déjà parler de ça et que voilà, on brise le tabou comme sur la sexualité, hein, tu vois, l'éducation populaire et tout. Donc déjà, ne reste de parler quoi.
Et donc, ça veut dire que c'est dans ces groupes de parole, puisque on sent bien hein, l'importance que ça a. Oui. Est-ce que très concrètement, depuis l'accueil, la possibilité offerte par le planning familial, est-ce que on a de plus en plus de femmes qui viennent?
Oui, bah, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de demandes, malgré que là, le planning ne peut pas recevoir non plus parce que ça déborde. Mais il y a beaucoup de demandes et on a observé, parce que moi, j'anime du coup avec Élise et Nadine. Mmh. On a vu que bah, quand les femmes, ils arrivent, au début, voilà, elles sont un peu timides, tristes, même un peu froissées et tout. Mais au fur et à mesure qu'elles arrivent, qu'elles viennent, qu'elles parlent, qu'elles se livrent, qu'elles mettent des mots sur ce qu'elles ont vécu, parce que voilà, parfois on a du mal à mettre des mots sur ces violences qu'on a vécues et tout, et ben ça change. On voit
après on entend les rires dans le plein air.
Voilà, c'est ça. Vraiment. On voit autre chose, on voit une autre femme, et ouais, ça redonne la confiance.
Donc un besoin d'être entendu, d'être visibilisé.
Oui.
Ça, c'est important. Recherche donc d'espace aussi.
Espace.
Donc, appel, appel est lancé. Oui.
Et puis d'être entre pairs aussi. C'est là, c'est ce que j'entends aussi. C'est... N'étant pas concernée, moi, je me positionne potentiellement en tant qu'alliée de la cause, mais à aucun moment, je peux savoir ce que ça fait de vivre ça, de vivre ce que les personnes victimes de mutilation génitale vivent.
On ne souhaite pas de le vivre.
Non. Mais, j'espère, mais en tout cas, voilà, on ne peut que se positionner que de ce point de vue-là.
Et
c'est déjà beaucoup, mais c'est pas grand chose. Et du coup, comment on peut agir, nous, en tant qu'alliés, pour ce pas grand chose? C'est effectivement donner la place, donner la parole, quoi, peut-être.
Oui. Et adhérer à l'association.
Oui.
On trouve ça où, le bulletin d'adhésion, très concrètement?
Après, il faut nous écrire, il faut nous envoyer un mail, parce que là, comme je vous ai dit, hein, ça commence et c'est compliqué à évoluer, quoi.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des contacts qu'on peut trouver, je ne sais pas, ou sur les réseaux sociaux
Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Si vous mettez les hibiscus, oui. Oui, vous allez nous trouver, ça, c'est sûr.
D'accord. Eh bien, merci. Et merci pour ton courage.
Merci.
Merci d'être là.
Merci beaucoup.
Et puis,
on peut lancer le morceau à suivre. Alors, je suis désolée, Mariama, j'étais un peu prise au dépourvu. Vous deux, Émilie et Mariama, je vous ai prise un peu au dépourvu pour demander un morceau. Du coup, Mariama, comme tu m'as dit, j'ai cherché et j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un morceau qui s'appelle Cut No More, qui est interprété par Awa Bling, Mariam Cham et tu connais ? Et Praise Gimba, tu connais, tu peux en dire quelque chose?
Non, mais Mariam...
Mariam Cham?
Oui, l'artiste, je connais, mais la chanson, je ne pense pas.
Ok, parce que du coup, j'ai cherché un morceau qui parlait des mutilations génitales et je suis tombée là-dessus. Donc, c'est un morceau qui a été créé en 2022 dans le cadre de Social Action Project Under the Fellowship. En gros, c'est une association qui lutte contre les mutilations génitales féminines partout dans le monde. Et du coup, c'est en lien avec l'UNICEF. Et il faut savoir que cette musique est chantée en trois langues, en Wolof, en mandingue et en anglais. Et du coup, ça n'a pas été facile apparemment d'écrire cette chanson-là pour ces artistes, mais ça donne quelque chose d'assez fort. Et voilà, je vous invite à l'écouter et à liker et à faire tourner.
Mususu no nyantabane ayechamale niyo samba ijuso kanabamba po ayefutuo nidiatinya mane adatulo yow wax ma lum nar kon paka iklan seti nalor muchel ci keni ci li daf ñu war dëgg la ada baax na waat bi loore ma waxuma ci dara FGM dafa war a en dafa war a cee FGM dafa war a en ci lu gaaw jongal jige dafa war a je dafa war a je to feel I came complete, so let me live my life to the fullest. I need no chains to bound my sensations. I deserve to have it all.
FGM ends with me. Then you feel put joke here, Lee. Loon song are done. Bolo my dole. Ada chosan waru to lore. Bull talk. So gise kukwe def nanko bole. Yer man de wai buko ton daki halela. Yo buko yo bunda fumi mbuje mwe suma ye gon. Bumage beranye. Ne linko def on du yon. Dina la mere trauma muna ta mutabok sa go.
Bah, les clitoriciennes, a priori.
Retour sur le plateau en direct du 108. Ça commence un petit peu à faire du bruit autour du bar. Et nous passons à la deuxième partie de cette émission. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir Émilie Rousset, nouvelle tête orléanaise qu'on est très contente d'avoir donc au Centre dramatique national d'Orléans. Émilie, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, c'est vrai, je t'ai déjà dit bonjour. J'ai dit une nouvelle tête et peut-être que les gens ne te connaissent pas beaucoup encore, pour certains, certaines, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à propos de toi ?
Alors, je suis Émilie Rousset, je suis artiste, metteuse en scène, directrice du Centre dramatique national d'Orléans depuis un peu plus d'un an. Je fais du théâtre essentiellement à partir d'archives et de matières documentaires, souvent liées à des sujets de société, rejouées par des acteurs dans du théâtre dispositif. Qu'est-ce que je dois dire de moi ? Je suis rousse.
C'est hyper important à la radio. Est-ce qu'on aurait déjà pu voir une de tes créations au CDNO ?
Mais tout à fait. L'année dernière, j'ai présenté avec la troupe d'actrices Reconstitution, le procès de Bobigny.
Magnifique pièce qui nous a, en tout cas moi, qui m'a beaucoup marquée. Et du coup, j'ai dit nouvelle tête, c'est vrai, mais ça fait quand même plusieurs mois, un an, plus d'un an que tu es là. Mais qu'est-ce que tu as envie d'insuffler au CDNO ?
Je ne me suis pas posé la question exactement comme ça. C'est que je trouve que les centres dramatiques nationaux, c'est un label super parce que c'est dirigé par des artistes et on a des mandats de 4, 3, 3, 10 ans maximum et que ça, c'est un renouvellement continu. Et je pense que vous avez eu une artiste, Séverine Chabrier, qui a insufflé aussi une énergie créatrice, qui a montré des artistes à Orléans. Et moi, j'arrive avec mon univers qui est différent, avec un réseau d'artistes qui est un peu différent. Et c'est ça que j'ai envie de partager, quoi.
Tout à fait. Et du coup, tu dis que tu travailles à partir d'archives. Tu peux nous parler de ta compagnie aussi ? Ta compagnie est dans cette dimension-là, de ce travail autour du récit intime, de l'archive. J'ai envie de te poser la question. J'ai lu quelque part que tu n'étais pas forcément d'accord avec le terme de théâtre documentaire concernant tes créations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, en fait, j'ai dit ça il y a longtemps, mais c'est marrant parce que les mots changent aussi de signifiant, surtout dans l'art, avec les courants artistiques. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand moi, j'ai commencé à faire ça, quand on disait théâtre documentaire, ça voulait souvent dire théâtre assez réaliste, souvent avec des témoins de la société civile, pas forcément des actrices, dans des formes un peu directe de témoignage. Et c'est vrai que je ne me reconnaissais pas forcément complètement dans cette esthétique-là. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle vague d'artistes qui s'emparent du théâtre dit documentaire dans des formats extrêmement différents. Et certainement en réaction d'ailleurs à un théâtre qui a pu être dans la relecture des classiques pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire que les textes classiques ne sont pas intéressants. Mais je pense qu'il y a eu un besoin de renouer avec quelque chose du concret et du réel et de notre vie ici, maintenant, aujourd'hui. Et on peut appeler ça théâtre documentaire. Mais aujourd'hui, vraiment, les artistes s'en emparent sous plein de formes, dans plein de médias. Et ça regroupe des œuvres très, très différentes. Donc, je ne dirais plus la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Donc, j'ai lu des vieilles choses sur le théâtre documentaire. Alors, du coup, c'est vrai que ça donne des dispositifs assez, j'ai envie de dire, assez novateurs, en tout cas.
Atypiques.
Avec ce récit, ces récits intimes qui sont, non pas dit par les protagonistes, les vrais, comme tu disais, mais en tout cas, qui sont portés par des actrices sur scène. Et je crois aussi que c'est le cas pour Affaires familiales.
Tout à fait.
Hein, qui va être présenté très prochainement au CDNO du 3 au 12 décembre. Je ne dis
du
pas
3 au 12 décembre, il y a 7 représentations.
Donc il y a vraiment moyen de ne pas louper ce spectacle qui a reçu un superbe accueil en Avignon, je crois, au festival cet été.
En fait, je suis hyper touchée par ce qui se passe avec cette pièce parce que c'est une pièce qui aborde des sujets difficiles. Le droit, on peut penser que c'est aussi peut-être un peu ardu comme ça, de l'extérieur. Et en fait, il y a une vraie rencontre avec les publics sur cette pièce très, très, très émouvante parce qu'en fait, la famille, la filiation, les violences, ça touche en fait de près ou de loin tout le monde. Il y a vraiment une rencontre avec le public qui se passe, avec des émotions qui sont pas toujours au même endroit, pas toujours au même endroit du texte, pas toujours au même endroit de la salle, suivant les soirs. Et c'est une pièce que je suis hyper heureuse de présenter là à Orléans.
Alors, j'imagine que tu devines pourquoi on a souhaité ta présence pour notre émission autour du 25 novembre. Mais peut-être on va éclaircir pour tout le monde de quoi nous parle cette pièce.
Du patriarcat.
Non.
Bah, on hérite d'un code napoléonien avec le droit du père au sein de la maison. Donc, vraiment, très concrètement, le mot patriarcat n'est pas prononcé dans la pièce, mais ça traite quand même de ça. Et comment on s'en sort, en fait, de ce droit du père où l'État n'allait même pas regarder ce qui se passait au sein du foyer. Donc, après... Une fois que j'ai dit ça, les sujets sont larges. On parle de filiation, on parle de parentalité LGBT, on parle de violence intrafamiliale, on parle de viol conjugal, on parle d'inceste, surtout, je crois qu'on parle aussi de comment l'institution judiciaire et la société ne sont pas des entités séparées et de comment à l'intérieur de l'institution judiciaire, il y a des gens qui œuvrent avec beaucoup de conviction, qui font bouger les textes de loi, comment la loi, ça définit aussi les périmètres de ce qui peut être réel ou de ce qui ne peut pas être réel dans une société, mais aussi comment nous, en tant que société, on fait bouger l'institution judiciaire et on œuvre aussi à faire bouger nos lois et notre société. Donc c'est vraiment cette porosité qui m'intéressait de mettre en œuvre et aussi de dire que du coup ces histoires familiales qu'on peut penser être des histoires intimes, ben, c'est des projets de société, c'est des histoires politiques.
Et ça raconte, oui, du collectif. Et ce qui est intéressant aussi dans la pièce, c'est que tu ne t'arrêtes pas juste, on va dire, dans les couloirs de la justice française. Il y a une dimension européenne, c'est bien ça?
Pardon. Oui, il y a une dimension européenne parce que j'ai eu la chance déjà de faire une tournée dans différents pays d'Europe et que je me trimballais ce sujet et que du coup j'en parlais et je rencontrais des gens. Mais c'est aussi parce que ça sert mon propos de dire que c'est pas une histoire intime qui se passe accidentellement dans un foyer, mais que c'est bien une histoire politique. Quand on va voir en Espagne... où le traitement des affaires familiales est pris à bras-le-corps par les politiques publiques depuis plus de 20 ans. Quand on voit qu'en Espagne, il y a des juridictions spécialisées, il y a des formations sur toute la chaîne du policier ou de la policière qui va recevoir le témoignage, aux avocats, aux magistrats, à la société civile. Et ça, c'est à une frontière de chez nous. Et en fait, on l'ignore. Et c'est une politique publique active pour lutter contre les violences de genre et les violences intrafamiliales depuis plus de 20 ans en Espagne. Quand on va voir en Italie le gouvernement Meloni d'extrême droite, qui est d'une hostilité ignoble envers les familles LGBT, et ben, si on est un enfant né d'une famille homoparentale en Italie ou si on est un enfant né d'une famille homoparentale en France, on n'a pas les mêmes droits.
Et alors donc tu parles de tes rencontres, et alors justement je voudrais qu'on aborde peut-être la démarche de création de ce spectacle, parce que ça a été un travail colossal de rencontres, d'archives, enfin d'archivage, de témoignages. Comment ça s'est passé, très, enfin j'allais dire concrètement, même si c'était un processus assez long.
C'est concret, mais la pièce dure 2h15, mais ça passe très vite, hein, on s'ennuie pas du tout, venez. Et pour écrire cette pièce de 2h15, j'avais plus de 150 heures de rush. Donc c'est un travail d'écriture en fait.
Donc t'es partie à la rencontre de qui?
Alors, d'avocates, principalement, d'avocats aussi, de justiciables. Après, comment se passent ces rencontres? Je fais beaucoup de recherches, j'ai beaucoup de lectures, et en même temps, il y a la vie. Et du coup, le hasard des rencontres, on commence à parler aux gens qui nous disent « va voir machin, va voir machine, il faut absolument que tu contactes cette personne », les gens qui sont libres, pas libres. Donc voilà, c'est comme un réseau qui se constitue avec des recherches et avec du hasard. Et j'aime beaucoup aussi le fait que la démarche d'écriture elle-même imbrique quelque chose de la recherche intellectuelle, de la lecture, mais aussi de la vie et de la rencontre, quoi. Après, il y a une sorte d'éthique pour moi de ce théâtre documentaire qui est que en tout cas dans ce que je sélectionne et du coup aussi ce que je provoque comme rencontre, il faut que ce soit des personnes pour que ça puisse être rejoué par des comédiens et des comédiennes, pour que ça puisse être repris au plateau sans trahison, sans réappropriation. Il faut que ce soit des personnes qui aient déjà une forme de conscience et de désir que leur histoire soit donnée aux autres. Je ne veux pas être celle qui vole les récits. Donc, c'est souvent des spécialistes, les avocates, par exemple, ou des militants, des militantes. Dans les justiciables, c'est souvent des gens qui font déjà acte avec leur histoire de passation. Il faut que ce soit quelque part déjà des personnages prêts à être des personnages, enfin, des personnes qui soient prêtes à ce que leur histoire devienne une histoire de théâtre, devienne un personnage.
Moi, j'ai une petite question sur, avec toutes tes expériences, là, toutes tes rencontres. En quoi la justice, elle peut faire réparation aujourd'hui?
Bah, elle peut beaucoup, la justice. Enfin, je veux dire, quand on est reconnu comme victime, quand notre situation est reconnue comme intolérable pour l'ensemble de la société, c'est énorme.
Mais c'est peu le cas.
Ça dépend les sujets. je pense qu'on a en tout cas des progrès à faire. Après, moi, j'ai pas voulu faire une pièce qui, depuis mon fauteuil d'artiste, dénonce la justice. Je pense que les problèmes qu'il y a dans la justice, c'est les problèmes qu'on a dans la société. Et qu'on a une justice à l'image de notre société.
Absolument.
Et que parfois, la justice est en avance sur la société. Parfois, la société est en avance sur la justice. Mais les dénis de justice que nous avons dans notre système judiciaire, c'est de notre faute aussi. C'est que notre société n'est pas assez active là-dessus. En termes de réflexion collective.
Donc tu penses qu'il y a un peu d'espoir quand même dans cette justice?
Oui, moi c'est une institution à laquelle je crois, et j'y crois d'autant plus aujourd'hui qu'on le voit quand les gouvernements, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est quand même un des derniers remparts pour préserver les libertés individuelles et l'égalité. Donc c'est pas du tout... Et d'ailleurs, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui œuvrent de l'intérieur de l'institution.
Qui font cheval de Troie un peu.
Certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, je comprends. On peut en parler d'un point de vue militant et dans la réflexion. Mais moi, ma pièce, elle se situe là.
Oui, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que des personnes qui, pour avoir bossé justement au planning familial dont on parlait tout à l'heure avec Mariama et avoir entendu des récits de personnes qui sont victimes de violences, le recours à la justice n'est pas évident. Mais vraiment pas évident. Il y a une perte de foi, en fait, dans les capacités de la justice à tu parlais de la reconnaissance de ce statut de victime. Je sais pas si les personnes ont besoin de la judiciarisation pour être reconnues comme telles. Parfois, ça peut passer par d'autres choses. Parfois, ça passe par ça. Et si ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Mais bien souvent, il y a cette espèce de pessimisme quant au recours à la justice, en disant bah, de toute façon, on ne va pas me croire. De toute façon, ça fait trop longtemps. De toute façon, évidemment qu'il y avait... Enfin, tout va contre moi et c'est inutile que je fasse quoi que ce soit. Il y a ouais, cette espèce de défaitisme. Et est-ce que toi, par rapport à ce défaitisme-là, les discours que tu as pu entendre, ils sont un peu contrecarrés ou pas du tout ?
Je ne vais pas dire le contraire. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a des parcours, il y a la victimisation secondaire, mais par exemple, qui commence à être traité. Ce mot commence à exister en France. Mmh. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son traitement des violences sexuelles et la victimisation secondaire que les victimes ont pu recevoir dans le système judiciaire. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que souvent, les victimes vont porter plainte aussi pour les autres. Donc il y a quand même quelque chose dont on a besoin pour se protéger en tant que société, en tant que collectif. C'est quand même, il me semble, un outil pour avancer ensemble. Mais je jetterai jamais la pierre à une victime qui ne se sent pas le courage ou qui n'a pas envie de porter plainte. Moi, je pense que c'est un des outils dont on doit s'emparer si on le peut.
Bah, et puis, enfin, je trouve ça difficile d'imposer à une personne de dire bon ben le système existe comme ça, tu as la possibilité de porter plainte. Si tu ne le fais pas, t'as pas de courage. Enfin, sans critique aucune sur ce que tu peux avancer, mais c'est souvent ce qui est avancé de manière générale. Je sais pas si c'est une question de courage à cet endroit-là, si c'est une question de réflexion collective, effectivement, la possibilité de dire j'agis pour les autres, j'agis pour mes proches, j'agis pour mes enfants parfois, j'agis pour les tierces personnes de ma famille qui sont victimes collatérales de tout ce qui se passe. Et oui, il peut y avoir cet enjeu collectif qui prime sur la défense de soi-même, parce que bien souvent, l'estime des personnes est tellement mise à mal qu'il y a peu de possibilités d'agir pour soi dans un premier temps. Et donc ce levier est hyper intéressant.
En tout cas, c'est une question que j'ai posée à une des avocates, Lilia Missen, qui venait de remporter une victoire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une de ses clientes avait été condamnée dans un divorce pour faute parce qu'elle ne couchait plus avec son mari. Le devoir conjugal. Alors même que le viol conjugal est reconnu en France, existe.
Oui, oui, oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Où est-ce que ça bug, quoi ? Et donc, elle m'explique les détails du dossier. Et c'était un dossier où il y avait des violences, en plus, contre elle et contre les enfants. Mais les violences n'avaient pas été reconnues. Et je lui pose la question est-ce que déposer plainte, enfin, ce découragement et elle, ce qu'elle m'a répondu, c'est que ce qu'elle dit à ses clientes, c'est que évidemment elle les prévient que c'est un parcours long, difficile, qu'il y a des décisions qui peuvent parfois être révoltantes, décevantes et qu'on peut aussi mal le vivre, mais que néanmoins si elles ne sont pas crues, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de la police, c'est de la faute de l'enquête qui n'a été mal faite ou souvent pas faite, parce que faut quand même dire ça aussi dans le manque de moyens, enfin je veux dire les investigations sur les cas de violences sexuelles ne sont pas faites. Il y a une histoire de drogue, il va avoir une investigation. C'est pas qu'on ne peut pas savoir, c'est que souvent, on ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas de moyens, même simples, mis en œuvre, de bornage de téléphone ou n'importe quoi, pour savoir. Ça n'est pas fait. Donc, dans la plupart des cas des non-lieux, c'est qu'il n'y a pas d'enquête.
Donc, le postulat, c'est dénonçons au maximum pour que la société bouge.
En tout cas, c'est une possibilité.
Et c'est quoi les autres possibilités ?
Parlons-en, nommons. Faisons de la prévention, faisons des associations, faisons des pièces de théâtre, faisons des émissions de radio, ouvrons-la.
Je voulais juste peut-être conclure cet échange sur toi, ta place d'allié dans tous ces combats féministes. Comment est-ce que toi, tu peux agir de par ton travail, de par toi, individuellement? Comment tu te situes dans tout ça? Est-ce que tu as du temps pour militer aussi?
En tout cas, là, par exemple, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que aller à la rencontre de tous ces sujets de violence, est-ce que tu es sortie déprimée de cette, de cette écriture et de cette pièce? Et pas du tout, en fait. Parce que avoir les bons mots, avoir les outils de réflexion, avoir le savoir, c'est... et puis rencontrer des gens qui sont, elles et eux, des militants, des militantes, ça donne beaucoup d'armes, ça donne beaucoup, c'est plutôt un processus d'empouvoirment. Donc j'espère que la pièce est aussi un processus d'empouvoirment sur ces sujets. J'essaie là, en ce moment, d'apporter ça.
Ok, trop bien. Merci mille fois à vous deux.
On rappelle peut-être les dates
Oui,
du 3 au 12 décembre, affaire familiale au CDN. Il reste des places. Allez-y, courez-y. Vous pouvez,
on y fera.
Y aller. Mais en tout cas, merci à vous d'agir de manière générale dans l'éducation populaire, dans le milieu de la culture, pour porter ces propos-là qui ne sont pas évidents. Et merci de le faire. Merci beaucoup. Et merci d'être là ce soir. Émilie, c'est pareil. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, tu ne voudrais pas nous proposer des morceaux pour ce soir? Et tu m'as envoyé une liste de chansons. Alors, bon, en vrai, la vérité, c'est que c'est arrivé un peu tard, j'ai pas eu le temps de les télécharger, donc j'avais téléchargé un autre truc en me disant « Hey, ça va le faire, je pense, ça peut matcher ». Et en vrai, ce que je voudrais dire, c'est que tous les morceaux que t'as proposés, je me suis dit « Bah oui, évidemment ». Il y avait l'hymne des femmes, « Balance ton quoi »,« Club moins ouin » de Camion Bibic, qu'on adore, évidemment,
mille
fois, que des hits qui font partie de mes likes sur Spotify de toujours. Et puis bon, je me suis souvenue aussi d'une soirée, d'un pot de première, je crois, c'était justement pour la première pièce que tu présentais à Orléans, où je suis là, nanana, et tu prends le contrôle sur la... Ouais, c'est un discours un peu long, c'est chiant.
Non, j'adore qu'on décrive mes DJ sets, vas-y.
Et là, je vois Émilie qui se dirige vers le poste et qui met un truc. Et là, j'entends Sexy Sushi et je me dis, mais waouh, mais c'est trop bien. Enfin, franchement, ça va révolutionner la terre entière du théâtre d'Orléans. Ça
mais
va
c'est
être
toujours
super.
Pas ça qu'elle a choisi.
Et c'est toujours pas ça que j'ai choisi. Donc, je tire les fils d'une histoire monumentale. Bon, bref, j'ai hésité mille fois. Je me suis dit, vas-y, on met le sex appeal de la policière. Mais bon, c'est un peu convenu. Et puis après, je me suis dit, oh, il y a plein d'autres choses de Sexy Sushi que j'aimerais mettre. Mais bon, Rebecca Warrior, on en a déjà beaucoup parlé. C'est pas ça qu'on va écouter. On va écouter une chanson qui s'appelle Assume, qui est produite et chantée et interprétée par un groupe qui s'appelle Graffiti, qui a joué au Lézard Festival l'été dernier. Et je vous invite à écouter vraiment les paroles de cette chanson parce que ça met un petit peu au pied du mur tous les agresseurs. Et ça fait du bien.
J'ai arrêté de croire que c'était seulement quelques ombres, quelques êtres immondes qui nous tombent dessus. Je t'ai donné ma confiance, c'est pire que d'être dans une ruelle sombre. Prise de conscience trop grande, douloureuse elle a.
Ton souffle sur ma nuque résonne encore comme de la disto. Bloqué de mon corps et tu croyais à tort d'en disposer. T'as laissé à bord clandestin, j'ai plus d'espace dispo. Laissant dans mon corps tes torts, tes tartes à abuser. Dispensé du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquos. Et maintenant selon toi qui prend quoi? Dispensé du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquos. Et maintenant selon toi qui prend quoi? Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus. Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus.
Défoncé pour oublier, retrouver les bras de Morphée. Mais maintenant c'est Médusa qui vient hanter mes pensées.
Charge mentale d'apprévenir tes potentielles victimes. Mais j'en ai marre de voir un changer la vie que tu mènes.
trop mal, mon corps trop m'évite, tu te justifies. Comment t'as pu oser me dire que tu m'aimais? J'en veux pas ta culpabilité, maintenant viens la ramasser. Tu m'as terrassé, je suis dévasté, mais c'est toi le désastre. Et t'as même pas eu l'habilité de comprendre ce que t'as laissé depuis nuit blanche marquée. Je dors plus, je regarde les astres. Crois pas que je vais te laisser t'en sortir. T'essaies même pas de te repentir. Tout ce que tu sais faire, c'est mentir. Et hey, ton déni comme seule rétention. Et si pour une fois t'essayais d'accorder ta parole à tes actions? Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfléchis. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Ah, maintenant je baisse plus. Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfléchis. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Ah, maintenant je baisse plus. Celle-ci c'est pour toutes les meufs. Pour les Adelphes et celles qui ont rien demandé. T'as cru qu'on se laisserait bouffer. Maintenant va falloir assumer. Celle-ci c'est pour toutes les meufs. Pour les Adelphes et celles qui ont rien demandé. T'as cru qu'on se laisserait bouffer. Maintenant va falloir assumer. Maintenant va falloir assumer. Toujours des excuses, encore qui refuse. Toujours tu réfléchis. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Ah, maintenant je baisse plus. Toujours des excuses, encore qui refuse. Toujours tu réfléchis. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Ah, maintenant je baisse plus. J'ai arrêté de croire, c'était seulement quelques ombres, quelques êtres immondes qui tombent. J't'ai donné ma confiance, c'est pire que d'être dans une ruelle sans prise de conscience trop grande.
Bah, les clitoriciennes, a priori.
Retour sur, au 108 en direct pour l'émission des clitoriciennes. Et nous arrivons à nos fameux plans cul. Et je vais, oh, alors, nos plans culturels, bien sûr. Excusez-moi, je me reprécise. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a entendu, voilà. Et bah, je vais laisser le micro peut-être à Émilie, qui avait un plan cul à nous partager.
Alors, parce que j'ai lu les chiffres terrifiants du CNC qui dit qu'il y a un recul phénoménal dans le financement des films de réalisatrices. Mm-hmm. Donc, on est très, très loin de la parité. Donc, je vais citer deux films. Donc j'ai vu La Petite Dernière que j'ai adorée.
Moi aussi j'ai adoré.
Et le film de Louise Aymon qui sort le 25 décembre, L'Englouti.
De Louise Aymon, mais qui est Louise Aymon ?
Louise Aymon est une réalisatrice avec qui j'ai co-signé plusieurs pièces. Son film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, a eu un beau succès, je l'ai vu, c'est un film génial. Et ça parle d'une institutrice qu'on envoie au début du XXe siècle dans la montagne pour apprendre le français, pour apprendre la culture française dans tous les recoins de notre territoire. Et ça parle de beaucoup de choses et notamment du désir féminin.
Tu peux nous redire le titre, s'il te plaît ?
L'Englouti de Louise Aymon qui sort le 25 décembre.
C'est noté, c'est dans les tablettes. Glitch, tu as quelque chose à nous partager ?
Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler de ma nouvelle passion, c'est-à-dire qu'en ce moment, je redécouvre l'horreur. Alors, j'adore la science-fiction et tout, mais là, je lis plein de nouvelles d'horreur, notamment. Et j'ai découvert une petite anthologie qui s'appelle « Nous parlons depuis les ténèbres ». Et c'est sous la direction d'Estelle Faye, qui est une autrice de fantasy et d'horreur. Et c'est une anthologie de nouvelles d'horreur, de SF et gothique. Et je sais pas, c'est trop bien, c'est que des autrices. Et il y a un fond... Alors ça, c'est pas féministe au sens strict du terme. Mais il y a une empreinte qui fait qu'on voit que c'est des femmes qui écrivent, que c'est des femmes militantes qui écrivent. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, c'est hyper court du coup. Et c'est top, voilà, je vous recommande. Nous parlons depuis les ténèbres.
Merci. Je vais garder le micro et moi je vais vous parler voilà, quelque chose qui est en rapport avec notre thématique des violences. Donc c'est pas funny, mais c'est magnifique. En fait, ça m'a quand même vraiment bouleversée. Ça s'appelle « Ce que Cécile sait ». Journal de sortie d'inceste, qui veut tout dire, qui a été dessiné, mis en page, théorisé par Cécile C, qu'on peut suivre d'ailleurs sur les réseaux. Et c'est toujours très intéressant, ces posts. Vous l'avez compris, le titre le dit, hein, c'est à la fois un récit intime, mais peut-être que ça peut parler et faire écho à ce dont tu parlais et ta manière de travailler. C'est à la fois le récit intime de Cécile C, justement, qui raconte un petit peu son enfance. C'est une bande dessinée avec un trait qu'on pourrait associer un peu à des dessins d'enfants, et c'est aussi ça qui est très troublant par rapport aux propos qui est rapporté et qui est mise en regard à chaque fois avec des approfondissements théoriques. C'est bouleversant. Y a plein de thématiques. Et puisqu'on approche de Noël, il y a pas mal de chapitres autour de Noël. Et qu'est-ce que c'est que la famille ? Alors moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est une période que je n'aime pas particulièrement. Et du coup, je pense que ça peut parler à plein de gens. Et ça vient aussi questionner la posture d'allié, vraiment, profondément. Donc c'est à la fois perturbant aussi. Ça se lit... Faut prendre le temps de la digestion. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu.
Moi, j'ai adoré. C'est une référence essentielle dans l'écriture aussi d'affaires familiales. Et c'est quelqu'un qui raconte certes son histoire, qui est bouleversante, mais qui permet aussi de comprendre très très bien. Elle explique très très bien les mécanismes qui agissent sur tout le monde autour de cette violence très particulière qu'est l'inceste.
Voilà, donc c'est paru aux éditions Marabout, et en fait, j'ai cette pépite m'a échappé, c'est sorti en 2024, je le dis quand même, ça m'a échappé, mais il n'est jamais trop tard, et je le rends à la médiathèque bientôt, donc vous pourrez l'emprunter à la médiathèque d'Orléans.
Empruntez-le tous à la médiathèque d'Orléans. Non,
achetez-le aussi, mais en tout cas, suivez-la sur les réseaux, parce que c'est vraiment toujours très pertinent, ces réflexions. Est-ce qu'on a d'autres plans cul ?
Ouais, moi j'en ai un aussi, et moi aussi je l'ai emprunté à la médiathèque. Je voudrais vous parler de La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo. C'est un roman qui raconte les aventures d'une famille pleine de contradictions, d'oppositions entre Marseille et Paris, cagole et BCBG, bronzé et tout palo, drôle et douloureux, tendre et ravageur. C'est un voyage dans l'intimité d'une famille où la fille est acceptée à Sciences Po alors qu'elle vient d'une famille de milieu populaire de Marseille. Sa mère est une cagole. Elle le dit, elle l'affirme, c'est une identité forte chez elle. Et en fait, un chapitre sur deux est écrit du point de vue de la mère ou du point de vue de la fille. Et on est vraiment sur beaucoup d'amour, mais beaucoup d'incompréhension. Et on parle aussi beaucoup du transfuge de classe. Voilà. Mmh. J'étais pas la seule à l'avoir lu.
Je suis dedans aussi.
Ouais,
et
voilà.
J'aime beaucoup.
Et c'était, voilà, il est super intéressant. Et voilà, lisez-le. C'est plein d'amour.
Alors, Clémentine, elle a le micro.
Oui. J'ai un micro. Moi, je voulais recommander LSD, la série documentaire qu'on connaît très bien, et parler de Au-delà du clitoris, et notamment l'épisode Comment se reconstruire. Parce qu'en France, on parle communément d'excision, sous le terme se tiennent invisibles les différentes formes de mutilation sexuelle, et plus encore, les femmes concernées. Et on parlait tout à l'heure de reconstruction, et là, en l'occurrence, il y a des questions de cela. Depuis une dizaine d'années, la réparation du clitoris est enseignée dans les facultés de médecine, et ces réparations ne concernent pas que le clitoris, mais souvent d'autres parties du sexe féminin. Et selon les mutilations vécues, de nombreuses femmes souhaitent en bénéficier avec l'espoir de reconquérir tout autant symboliquement que physiquement leur vie sexuelle. Mais la chirurgie n'est qu'un moment, une séquence médicale. Et se réparer, c'est aussi choisir une nouvelle vie et se reconstruire. Je lis le pitch, parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore écouté, mais je l'ai mis dans ma liste de diffusion et ça me donne très envie. Voilà. En tout cas, je trouvais important de pouvoir dire un mot sur ce sujet-là et qu'il y a des outils pour, en tant qu'allié, s'informer sur le sujet.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres plans cul autour de la table ? Non. Je vous remercie. On se retrouve donc au CDNO pour Affaires familiales du 3 au 12 décembre. Il reste des places, je ne fais que le rappeler depuis le début. Et on se retrouve. Oui, alors.
Demain
alors, vas-y.
Ouais, demain. On se retrouve demain.
Bah oui, demain.
On se retrouve demain au Centre chorégraphique national. On fait la boum, ouais, c'est ça.
21h
à minuit, du coup, il y a un DJ set absolument incroyable au Centre chorégraphique national d'Orléans. Du coup, c'est DJ Landy qui animera cette soirée. Voilà, ça a l'air juste incroyable. Il y a plein de travail de danse autour à la fois du walking, qui est une forme de danse proche du voguing, très en mode de pose, de mode de du magazine Vogue, et en même temps en lien avec le Fado, en lien aussi avec son spectacle Baté Fado qui est joué là en ce moment à la scène nationale. Et bah demain on peut danser, donc c'est le Sunset. Tu veux rajouter quelque chose, Émilie, peut-être?
Oui, je voulais juste rajouter.